fort, la traverse en retour, nous lui rendons hommage cette semaine.
Avec philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, il est 21h, l'heure d'ouvrir une fenêtre sur l'imaginaire. Une heure pour s'évader grâce au feuilleton, s'émerveiller avec l'instant poésie et plonger dans lecture du soir.
URSS, Tcheliabinsk, bar de l'hôtel Malarit, 153 rue Trouda, 5 décembre 1985, 22h05.
Oui, Pete. Je бутылку, пожалуйста.
Encore une vodka. T'es sûr? On descend ça comme de la bière, je suis pas certaine de tenir.
Oui, tu vas tenir. Ici, on a de la culture de la vodka. Ça fait beaucoup de dégâts. Profites-en, car camarade Gorbatchev vient de lancer sa guerre contre l'alcool.
C'est pas si bas. Alors, buvons avant que ça devienne interdit.
На здоровье.
На здоровье.
Oui, СССР, si tu veux pas boire chez toi, tu as deux possibilités. Soit les столовые.
Des quoi?
Столовая.
Столовая.
Столовая, pas à peu près.
Столовая.
C'est comme une cantine. On te sert au comptoir et puis tu vas t'asseoir. C'est très soviétique. Et sinon, plus occidental, tu as les bars hôtels, comme ici.
Un bar en tête qui dégouline de dorures. Pardon, mais on vient pas pour la déco, c'est certain. Bon, Vassili, tu veux toujours pas me dire où on est, là?
Avant, on était dans ville scientifique fermée, qui n'a pas de nom. Juste numéro. Ces villes doivent rester secrètes. Ces conditions vie particulières. Mais c'est très efficace pour la recherche.
Oui, mais on est où, là? Dans le nord, au sud, près de Moscou, oui.
Détends-toi, tu es avec moi. On est dans le plus grand hôtel d'une ville où tu ne vas jamais revenir.
Attends, est-ce qu'il y a un seul client ici qui n'est pas du KGB?
Oui, toi, pour commencer. Tu sais, en général, ceux qui espionnent, c'est pas les clients, c'est les serveurs. Ils sont membres du parti et ils parlent avec KGB. Mais la vodka a toujours le même goût.
Au KGB. Mais trop bien.
Au KGB.
Tu peux dire ce que tu veux, camarade. Mais je comprends pas le système soviétique. Regarde. Regarde autour de nous, vous rêvez d'une vie à l'occidentale, mais vous vous l'interdisez. J'ai du mal à comprendre comment tout ça arrive à tenir.
Tu verras, le système a du bon. Tu vas sortir bientôt. À Leningrad, tu vas découvrir autre SSSR.
Oh, j'ai hâte d'arriver à Leningrad. Oh. Je dois aller aux toilettes.
Je viens avec toi.
Je préfère faire ça seul, si ça te dérange pas.
Non, je peux pas te laisser.
Écoute, Vassili, je vais vomir. J'ai trop bu. Tu veux me tenir les cheveux au-dessus de la cuvette ou tu me laisses un peu de dignité?
Bon, vas-y. Mais dépêche-toi.
Je suis interrogée depuis plusieurs semaines dans une ville scientifique secrète.
Température extérieure entre moins 5 et 0 degrés à midi. La nuit tombe à 16 heures. Il a neigé pour la dernière fois il y a 5 jours. Le vent vient essentiellement d'est. Il y a 4 sommets de moyenne altitude à une centaine de kilomètres au nord-nord-est. J'appelle d'une ville moyenne à environ 2 heures de route depuis un hôtel qui s'appelle Malahit. Il est prévu qu'on me transfère à Leningrad dans les prochains jours.
Orlov, saison 2. Une série écrite par Tanguy Blum, Christian Brugerolle et Antoine Piombino et réalisée par Baptiste Guiton. Troisième épisode.
Paris, appartement de Philippe Chassagne, 82 avenue de Suffren. 6 décembre 1985, 3h40.
Allô ?
Monsieur, on a reçu un câble diplocrypté. Alpine a refait surface.
Ah ben voilà, enfin une bonne nouvelle. Bon ben j'arrive tout de suite.
Tu peux raccrocher de manière moins théâtrale quand je dors, s'il te plaît.
Oh Christine, tu m'emmerdes.
Yvan, n'oubliez pas ma note, s'il vous plaît.
D'accord, merci.
Paris, siège de la DGSE, 141 boulevard Mortier, salle de crise, 4h10.
Formateur arrive, je vous rappelle.
Alors, elle est où?
Elle a laissé un message sur un des répondeurs de l'antenne de Moscou.
Elle est où exactement? Ouais.
Avec les infos qu'elle nous a données, on pense qu'elle est dans le secteur de Tcheliabinsk, dans l'Oural. À son arrivée, elle a été emmenée dans une des villes scientifiques fermées et contrôlées par le NKVD.
Je comprends mieux pourquoi on n'avait aucune nouvelle. Est-ce qu'on a une localisation plus précise?
Écoutez, on converge vers Tcheliabinsk 70, un centre de recherche nucléaire.
Un bunker à ciel ouvert de 6 km sur 10, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à le situer précisément sur une carte. Dans les années 60, on savait qu'ils y développaient leurs missiles balistiques intercontinentaux. Aujourd'hui, évidemment, on ne sait plus rien.
Si je résume, elle est essorée par des chercheurs de pointe. Ils la questionnent depuis 2 mois et demi, ça veut dire qu'ils croient ce qu'elle raconte. Mmh. Ils ont mordu à l'hameçon, on est d'accord?
A priori, oui. En tout cas, elle dit qu'elle sera bientôt transférée à Leningrad.
Bon, parfait. Prévenez Orphée et dites-lui qu'elle part le plus vite possible.
C'est déjà fait. Elle décolle pour Moscou avec la prochaine délégation officielle dans 4 jours.
Paris, hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, 74 boulevard de Port-Royal, 9 décembre 1985, 9h30.
Entrez.
Mathieu, je te dérange?
Oh.
Tu préfères que je repasse plus tard?
Non, non. Entre. L'infirmière vient de partir. Je suis tout à toi.
Tiens, le catalogue de l'Expo Paul Klee, tu m'avais demandé.
Oh, merci.
Le soleil du 5e arrondissement te fait du bien. T'as déjà meilleure mine.
Arrête. Pas de cinéma, s'il te plaît.
Bon, si tu préfères la vérité, tu fais peine à voir, mon ami.
Merci de ta franchise. Tu es la première personne qui rentre dans cette chambre et dont les yeux laissent entrevoir autre chose que de la terreur.
De quoi tu parles?
Bah, du sida. Ça fait peur à tout le monde. Les infirmières osent à peine me toucher. Le chef de service, il parle de cancer gay.
Oh, mais moi je suis tranquille. On sait comment le virus se transmet, et de ce côté-là, j'ai pas besoin de couvrir mes arrières. Pas
vrai. Malheureusement, l'humour ne sauvera personne ici. Enfin, en tout cas, pas moi.
Le formateur m'a chargé de te dire tout son soutien. Il a pas pu venir. Il en est désolé.
Cet homme... Il mérite pas la considération que vous avez tous pour lui. Je l'ai couvert. J'ai cédé à son chantage. Et il a même pas le cran de venir me rendre visite. Son courage, sa loyauté... C'est que de la façade. Ricard a raison. Il est bien taillé pour diriger la maison, lui.
Ricard est venu ici?
Oh, non. Mais c'est normal, parce que lui, c'est un salaud, mais au moins, il fait pas semblant. J'avais plus la force de continuer, Étienne.
Tu as fait comme tu as pu.
regrets, ça ne sert à rien. Mais je ne suis pas idiot. Je sais que l'Élysée a étouffé l'affaire Orloff.
Tu veux de l'eau ?
S'il te plaît. Tiens.
Doucement. Ça va ?
Oh, merci. J'ai un aveu à te faire.
Dis-moi.
J'ai toujours eu le sentiment que quelque chose vous liait, Jeanne Evans et toi, dans toute cette histoire.
Il faut parfois accepter de ne pas savoir.
Ah, ça, j'en suis incapable. Tu parlais de regrets. Eh bien, moi, je vais mourir cerné par les regrets. Je me suis englué dans une mare de mensonges. Au départ, en intégrant les renseignements, je pensais pouvoir saisir la torche de la vérité. Mais non, je me suis perdu dans la nuit.
Hey, en dirigeant le SDEC, tu as modernisé la maison à une période où c'était un sacré défi. C'est pas donné à n'importe qui. J'ai été fier d'être ton adjoint.
Où que j'ai porté le regard, je n'ai vu que des mensonges. Ma hiérarchie m'a menti. J'ai menti à ma hiérarchie. Même dans ma vie privée, j'ai caché mon homosexualité. Tu sais, j'ai vécu ce secret comme une injustice. Moi qui jure que par la vérité, j'ai été condamné à le porter, ce secret. Et il m'a empêché d'aller au bout de ce que je voulais faire.
Tu t'es fait une trop haute idée de la vérité. Qu'elle soit intime ou officielle. Alors que le monde du renseignement, c'est précisément le réajustement permanent de la notion de vérité.
Oui, je sais. Mais je vais mourir sans avoir su rentrer dans votre monde.
Et sans avoir trahi ton idéal. Ce qui t'a valu le mépris de beaucoup et l'admiration de certains. Ça force le respect. Le mien, en tout cas.
Merci, colonel. Merci.
Bon. Je reviens te voir bientôt.
Non. Ne reviens pas, s'il te plaît. Tu sais, mon état empire de jour en jour. Alors je préfère que notre dernière discussion, ça soit celle-ci. Tu veux bien? Au revoir, Étienne.
Здравствуйте, это Софья. Я принесла лекарство.
URSS, Moscou, 16 Гагаринский переулок, 13 décembre 1985, 16h20.
Здравствуйте, Софья. Привет, входи. Спасибо. On pourrait discuter un peu tranquillement au fond de l'appartement. Dis donc, c'est spartiate. T'es là depuis longtemps?
Assez longtemps pour être heureuse de te voir. Ça veut dire que je vais rentrer.
On a peu de temps, tu décolles dans 4 heures.
Je repars avec une délégation diplo?
Oui. Je suis venue avec eux et tu vas rentrer à ma place. Tu vas devoir me ressembler le plus possible. Va te laver les cheveux, je vais te les couper et après tu te feras la teinture.
Très bien.
Je te laisse mon passeport sur la table de nuit. Tu vas retourner à l'ambassade en taxi. Ils t'attendent pour emmener la délégation à l'aéroport. On te briefera sur place. T'as des choses pour moi?
Tout est dans le sac sur la table de la cuisine. J'ai pris ton billet de train pour Leningrad. Tu pars demain à 15h30.
T'as l'adresse et les clés de la planque. Je préfère te prévenir ici à côté, c'est Chambord.
Tout ce que j'aime. Il y a une voiture sur place?
Ouais. Sur le trousseau, t'as les clés d'une Lada Jiguli grise, garée juste en bas. Réservoir rempli, il y a de jarricanes, d'essence, dans le coffre. T'as de quoi faire 105 km sans t'arrêter.
Il y a beaucoup de passages dans l'immeuble?
Non, très peu. Il est à moitié vide, a priori personne viendra te parler. Si on te demande, t'es la cousine de Katerina Vorge. Et tu viens simplement vérifier que tout va bien.
Ok, viens, je vais te couper les cheveux. Je te préviens, c'est pas ma spécialité. Reste bien devant le miroir. Pour la teinture, oublie pas les sourcils et surtout les aisselles et le pubis. Ils sont capables de vérifier.
URSS, Leningrad, 21 Lermontovsky Prospect, 15 décembre 1985, 14h20.
Oh, entre.
Oh là là, mais ça a l'air immense. C'est beau, c'est hyper lumineux.
Dobro pozdravljati. Bienvenue chez toi. Viens, viens, je vais te faire la visite.
Ok.
Suis-moi.
Ah, c'est grand.
Alors, là, tu as la cuisine.
Ah, je suis tellement soulagée d'être là. Vassili, merci.
Tu vois, je te l'avais dit. Notre système peut avoir l'air dur, mais il sait être juste. Tu as bien travaillé, donc tu es logé dans le même type d'appartement que les camarades méritants. Et j'ai utilisé mes relations pour t'avoir tout ça.
C'est adorable. Merci. Le frigo est plein à craquer, c'est dingue.
J'ai tout choisi moi-même. On connaît tes goûts. Quand tu rentreras du travail, tu n'auras pas à t'embêter à faire les courses. Et pareil pour les vêtements.
Mais j'ai quand même le droit d'aller faire les magasins. Non, mais ne serait-ce que pour participer à l'économie nationale.
Конечно, bien sûr. Il y a des endroits super dans Admiralski Rayon. Je pourrais t'emmener quand tu me demanderas.
Ok, je vois.
Le bureau d'études de Rubin est à 15 minutes. Je t'emmènerai et je te ramènerai. Tu mangeras à la cantine et tu dîneras ici. Seul ou avec moi si tu veux. Je me débrouille bien en cuisine.
Pourquoi il n'y a pas de touche sur le téléphone?
Tu passes par une standardiste qui te mettra en relation avec qui tu veux en SSSR. De toute façon, tu n'auras pas beaucoup de gens à appeler. Je suis là pour te faciliter la vie.
Bon, Vassili, c'est très aimable, hein. C'est très gentil, vraiment. Mais je compte pas dépendre de toi pour tout, ni rester seule dans ce bel appartement. Je suis venue à Leningrad pour travailler, mais aussi pour vivre. Et puis, regarde. Le salon est parfait pour organiser des fêtes.
Je suis là pour ça. Je connais du monde. On va te faire plein de nouveaux amis.
Mais j'aimerais aussi faire mes propres rencontres. J'ai besoin d'air un peu, tu sais.
On est obligé de prendre des précautions pour ta sécurité. Tu pourras très bientôt aller au cinéma ou au patinoire. Leningrad a vraiment beaucoup à offrir. Presque autant que Moscou.
Et je vais faire quoi en attendant, coincé ici?
Il y a la télévision. Et je devrais pas te le dire, mais tu as aussi la radio occidentale. Je te montrerai comment capter quelques stations. Je pourrais aussi t'avoir des magazines et des disques de l'Ouest. Mais ça met du temps à arriver. Tu n'auras pas les nouveautés.
Ok, je vois. Vous m'avez mise dans une prison dorée et t'es le gentil geôlier. Et tu vas me filer des cigarettes sous le manteau, du chocolat et... Et quoi d'autre ? Non, vraiment, ça va pas marcher si vous me faites pas confiance, Vassili.
Je comprends que tu aies cette impression. Mais tu te trompes. Tu vis ici pour de bon. Tu dois apprendre à vivre comme nous. Tu es libre. Mais on est en SSSR.
Je suis un robot soviétique. Je sers le parti. Mais j'aime la vodka et les petites françaises.
Christelle.
Quoi ?
L'appartement est entièrement sur écoute.
Comment ça, entièrement sur écoute ?
C'est normal, c'est la procédure.
Mais on parle de mon intimité, là. Si je reçois des amis ou si je veux m'envoyer en l'air, je préfère que ça reste entre ces quatre murs. J'ai pas forcément envie que des agents du KGB se rincent les oreilles.
Ce sera pas des agents du KGB, c'est moi qui écoute ce qu'il se passe. Je dors dans l'appartement juste au-dessous. Il n'y a que moi. Tu es libre maintenant.
Je suis pas sûre qu'on ait la même définition de la liberté. Est-ce que je peux au moins avoir les clés de chez moi ?
La porte d'entrée ne ferme pas. En SSSR, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de crime.
Bon, j'aimerais être seule maintenant. Je te laisse aller m'écouter tranquillement.
Je comprends que tu sois fâchée. Mais on ne peut pas faire rentrer n'importe qui dans nos laboratoires. Tiens, le parti a tenu à te faire ce cadeau de bienvenue. C'est du caviar Almas, le meilleur du monde, réservé aux gens importants. On pourra le déguster ensemble.
Non, merci. Dans cet appartement, il aura un goût amer.
Paris, siège de la DGSE, bureau de formateurs. 16 décembre 1985, 17h15.
Ceux qui vous ont précédé à la tête de la DGSE avaient la courtoisie de se déplacer à l'Élysée, mais vous marquez le terrain, j'apprécie.
Ça n'est pas un manque de respect, monsieur le secrétaire général. Mais ici, j'ai la certitude que nos échanges demeurent confidentiels. Et c'est important, surtout étant donné ce que j'ai à vous dire.
Eh ben, allez-y. Je suis là.
On est bien d'accord que la scientifique disparue en URSS est totalement hors de portée. Nous en avons acquis la conviction ensemble à l'issue de notre visite à l'ambassade soviétique, n'est-ce pas ?
Je sais tout ça. Venez-en au fait.
Je suis un pragmatique, Ricard. Vous l'avez bien compris. Et un pragmatique sait calculer ses risques. Après avoir consulté mes équipes, j'ai pris la décision d'envoyer un agent en opération derrière le rideau de fer. Les Russes l'ont recruté pour un motif scientifique, mais en réalité, elle travaille pour nous. Et la mission se passe très bien. Il s'agit de Jeanne Evans.
Vous avez quoi ? On sort à peine d'une séquence politique dans laquelle la confiance envers l'Élysée et la DGSE a été ruinée. Et vous montez une opération en URSS dans le dos du président ? Mais de quel droit ?
Du droit que me confère l'autonomie d'action dont le renseignement français a besoin.
Mais vous m'avez sciemment menti. Vous m'avez utilisé ?
Absolument. Pour crédibiliser la légende de notre agent.
Je représente le président de la République. Vous lui répondez directement. Dois-je vous rappeler la Constitution ?
Non, c'est pas la peine. Le président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l'État, etc. Article 13. Il pourrait me révoquer, mais il ne le fera pas.
Oh, il le fera. Sans hésiter.
Non, il ne le fera pas. L'encre de sa signature sur mon décret de nomination est à peine sèche. L'opinion ne comprendrait pas que je puisse être désavoué si vite.
Vous êtes fou, allié. Jeanne Evans, la fille de Créange. Vous ne risquez pas uniquement le désaveu, mais 10 ans ferme comme vos deux agents du Rainbow Warrior.
Allons, c'est ridicule, Ricard. Je n'ai aucune responsabilité dans la déroute récente de nos services qui me fait aussi honte qu'à vous.
Mais je m'en contrefous de votre honte. Tout ceci est inqualifiable. Ou plutôt, si ça l'est, c'est de l'insubordination. C'est de la trahison.
J'ai agi en faveur des intérêts français. Grâce à Jeanne Evans, nous avons livré aux Américains des informations sur les sous-marins de classe Typhoon. C'est leur obsession. Et alors, ils consentiront à nous aider sur le Liban. C'est ce que vous voulez, non ? Libérer les otages.
Il faut tout arrêter. Maintenant, si les Américains apprennent que nous avons envoyé cette fille qui a travaillé sur leur technologie furtive en URSS, c'est un coup à rompre les relations diplomatiques.
Les Américains en seront avertis lorsque nous aurons de quoi négocier avec eux. Alors ils n'auront d'autre choix que de coopérer.
C'est extrêmement périlleux. Le président exigera...
Mais n'ayez pas peur, Ricard. Mitterrand est obsédé par le renseignement intérieur. Et tant mieux d'ailleurs qu'il continue à lire les transcriptions de ses écoutes illégales du tout Paris et qu'il me laisse faire mon travail. Et par pitié, ne me parlez plus d'éthique ou de constitution.
Bien. Vous gagnez cette manche. Je veux être tenu au courant de toutes les avancées de cette opération. Vous êtes dans ma ligne de mire, Philippe.
Orphée va nous contacter d'une seconde à l'autre.
Entrez, moi. Posez la valise du téléphone satellite sur le bureau.
Paris, Siège de la DGSE, bureau de formateur. 24 décembre 1985, 18h.
Oh, s'il vous plaît, faites vite, je dois encore aller à la Samaritaine acheter des cadeaux. Un 24 soir, qu'elle plaît.
Vous faites le réveillon chez votre fille ?
Non, soit toutes les soeurs de Christine à la maison, c'est encore pire. Et vous, en famille à Brest, comme d'habitude ?
Oui, je vais attraper le dernier air inter. Je la rejoins pour la messe de minuit. C'est bon. Elle est là.
Si, Orphée. Ici, Orphée.
On vous écoute, Orphée.
J'ai enfin eu un contact visuel avec Alpine. Elle est installée dans un appartement luxueux dans un bel immeuble du quartier L'Amirauté. Elle est au 5e étage, côté rue.
Comment va-t-elle ?
Elle va bien. Elle est traitée comme les membres de la nomenclatura. Pour l'instant, c'est une invitée de marque du régime. On s'occupe de son ménage, ses trajets, sa nourriture. Une voiture surveille l'immeuble en permanence et deux agents se relaient la nuit à son étage. Le KGB lui a aussi collé un chien de garde. Une quarantaine d'années, 1m80, athlétique. Il a l'air assez haut placé dans la hiérarchie. Il ne la lâche jamais.
On va essayer d'en savoir plus sur lui. Dorénavant, on lui attribue le nom de code Cerber.
Je vous fais parvenir via l'ambassade les clichés que j'ai pris. Il vit dans un appartement en dessous du sien.
Elle est en place dans le centre de recherche de Rubin ?
Oui, depuis 6 jours. Je vais établir une boîte aux lettres au Yamsky et Bagna, les bains publics de Leningrad. Alpine ira au bain le jour des femmes. Un carreau est décellé à un endroit précis dans les vestiaires. Elle peut y mettre des disquettes ou des documents papier.
Quand allez-vous lui communiquer ce protocole ?
Dès que j'ai une ouverture, dans un lieu public.
Parfait. On attend votre rapport selon le calendrier prévu et vous nous alertez au moindre changement.
Reçu.
Attendez, Orphée. Passez un bon réveillon.
Vous aussi. Pour moi, ce sera crabe en conserve et betterave. Mais je crois que j'y prends goût.
Bon courage. Terminé.
Reçu, terminé.
URSS, Leningrad. Station de métro Plochetlenina. 28 décembre 1985, 17h20.
Mais c'est immense. Ah, c'est beaucoup plus profond que le métro parisien.
Et c'est moderne. 5 escalators et on est à plus de 80 mètres sous terre.
Et il y a toujours autant de monde ?
Aux heures de pointe, oui. Il faut se serrer. Mais ce n'est pas trop désagréable. Tu vas voir, en Union soviétique, les gens sont attentifs et respectueux.
Qu'est-ce qui se passe ? Une bagarre ?
Attends-moi, je vais voir.
D'accord. Dans la poche de ta veste, tu trouveras l'emplacement des boîtes aux lettres et des instructions. Avale le papier quand tu l'as lu.
Jeanne, viens, on descend à cette station.
D'accord. Zimine, c'est pas jouer ça. C'est pas bon.
Venez d'entendre Orlov, saison 2. Troisième épisode. Une série écrite par Tanguy Blum, Christian Brugerol, Antoine Piombino et réalisée par Baptiste Guiton. Musique originale dirigée et composée par Krishna Levy. Retrouvez le générique complet sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes bien sur France Culture.
Bonjour, c'est Marina Carrère d'Encausse. Gisèle Pellicot, victime de viols sous soumission chimique, des enfants sidérés durant les abus qu'on leur impose, des centaines de milliers de personnes restent traumatisées par ces violences sexuelles, avec des conséquences graves pour leur santé mentale et physique. Dans un podcast de 6 épisodes, je vous propose de parler mémoire traumatique, amnésie, dissociation, mais aussi prise en charge et réparation, entretien avec Muriel Salmona, psychiatre.
Un podcast en 6 épisodes à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Comment la vie, exclusivement marine,
est-elle sortie de l'eau ? Marc Mortelmans vous raconte l'aventure des premiers explorateurs qui passent de l'eau à la terre avant de conquérir le ciel, sans oublier ceux qui sont retournés à l'eau, comme les baleines ou les manchots.
Dans les premiers océans, des molécules trouvent le moyen de s'agréger, puis de se reproduire.
Mécanique du vivant, une collection par Marc Mortelmans, réalisée par Charlotte Roux, à écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Vous écoutez France Culture, place à l'instant poésie. Du lundi au vendredi, tous les soirs du mois de novembre, la chanteuse Kerenan partage avec vous une expérience poétique.
Je vous propose d'écouter un poème de Griselidis Réal, un extrait de Chair vive. On va la sentir, cette chair vive, dans le Cantique de l'espoir, lu par Coralie Zaonero.
Malheur à la ville perdue où les poètes se prostituent. Maudite la longue avenue où nos pieds marchent sans espoir vers d'impossibles libertés. Nous sommes sous d'asphalte noir, de pétrole et de vent glacé. Nous sommes sous de désespoir. Maudite soit la longue rue où la nuit lentement nous tue. Nous avançons les yeux fermés vers d'invisibles ports de mer où nous attend l'aube incertaine d'un rêve longtemps refoulé. Au-delà de l'ordure humaine, nous avançons le cœur amer. Nous avançons les yeux brûlés par le soleil mort du désert. Il fait nuit sur nos corps tombés. Il fait jour sur nos mains tendues. Nos yeux flambent dans le brouillard, éclairant les routes perdues. Silence à nos bouches vendues. Nous sommes l'arme du hasard. Dans la lueur rose des bars, dans l'aube verte des miroirs, où les soleils artificiels brûlent dans l'ambre des whisky. Parmi l'eau trouble des regards et les paroles répandues, nous n'avons pas tué l'amour. Il étincelle au fond d'un puits, comme un diamant pris sous la boue. Mon bel amour enseveli sous la neige comme un scalpel. Le néon saigne au fond des rues. Nous tournerons comme une roue lancée aux quatre coins du ciel. Malheur à la ville inhumaine où nous marchons jour après jour vers tant de nécessités vaines. Dans le silence des prisons, dans le grincement des serrures, dans la faim, la soif et la peur, nous n'avons pas trahi nous-mêmes. L'espoir était plus fort que tout. Il sciait vos barreaux de fer. Nous avons ri de vos armures, des grimaces, des oraisons, où vous croyez sauver des vers, votre carcasse en pourriture sous les débris morts de vos cœurs. Bourgeois, vous puez le cadavre. Prenez garde aux pauvres et aux fous que vous mettez sous les verrous. Nous vous ferons sauter vos ventres et vos intérieurs de voiture, dans vos palais où nul ne rentre sans être de vos serviteurs. Vous dévorerez vos ordures. Vous mangerez vos propres cendres. Vous boirez le sang de vos veines comme celui que nul ne navre. Bourgeois, prenez garde à la haine, allumée au pied des autels où vous sacrifiez à la peur. Prenez garde à nos voix humaines. Quand toute vie aura cessé, quand les statues au carrefour d'un monde vide et calciné répondront seuls à l'appel des siècles couchés sous la terre, il y aura le premier jour à la naissance du mystère, un chant reniant la défaite, l'espoir comme un râle d'amour brûlant la gorge d'un poète.
Je trouve ça fort comme image. Asphalte noir, pétrole, vent glacé. C'est quand même fort comme allusion au désespoir.
Nous sommes sous de désespoir.
Les longues rues.
Maudite soit la longue rue.
Où la nuit lentement nous tue. Dans sa poésie en général, Griselidis Réal évoque des difficultés. C'est des cris par rapport à la liberté, elle a énormément de critiques envers la bourgeoisie. Mais ce qui me plaît, c'est que malgré ça, elle vit entièrement sa capacité de chercher des images qui donnent envie de vivre.
Dans la lueur rose des bars, dans l'aube verte des miroirs, où les soleils artificiels brûlent dans l'ambre des whisky, parmi l'eau trouble des regards et les paroles répandues, nous n'avons pas tué l'amour. Il étincelle au fond d'un puits, comme un diamant pris sous la boue.
Une image racontée par Bukowski aussi. Ça pourrait être Tom Waits qui chante ça. C'est pas que le macabre et la pénombre. C'est du rock'n'roll. Après, c'est pas du rock'n'roll par choix, puisque elle n'a pas eu une vie facile.
Il fait nuit sur nos corps tombés. Il fait jour sur nos mains tendues. Nos yeux flambent dans le brouillard, éclairant les routes perdues. Silence à nos bouches vendues. Nous sommes l'arme du hasard.
Elle parle souvent des autres, des regards des autres. Elle se sent observée. Mais elle connaît justement ce qu'elle raconte, le silence des prisons, le grincement des serrures, la faim, la soif, la peur. Mais, dedans, elle a réussi à rire. Elle a réussi à vouloir vivre. Je trouve ça fort.
Dans le silence des prisons, dans le grincement des serrures, dans la faim, la soif et la peur, nous n'avons pas trahi nous-mêmes. L'espoir était plus fort que tout. Il sciait vos barreaux de fer. Nous avons ri de vos armures, des grimaces, des oraisons, où vous croyez sauver des vers, votre carcasse en pourriture sous les débris morts de vos cœurs. Bourgeois, vous puez le cadavre. Prenez garde aux pauvres et aux fous que vous mettez sous les verrous.
Autant laisser des mots, autant laisser des poèmes. C'est ça la trace qui traverse. C'est ça l'empreinte. L'empreinte Grisalitis Real avec Cantique de l'Espoir.
C'était l'Instant Poésie de Kerenan, réalisé par Cédric Ossir, à retrouver sur l'application Radio France, franceculture.fr et l'Instagram de France Culture, avec chaque soir une illustration originale.
Vous écoutez France Culture, des textes portés par des grandes voix de comédiens et d'écrivains. Tout de suite, lecture du soir.
Page arrachée au journal de Mireille Havet. Troisième épisode. Ronde de la fête, ronde de l'angoisse. Texte choisi et présenté par Béatrice Leca.
Les visages, les noms défilent, que le journal de Mireille Havet retient à peine. Ce sont pour chacune de ces femmes les mêmes déclarations, les mêmes promesses, les mêmes vœux. Rien ne semble devoir s'imprimer, excepté ces deux rencontres la même année. Madeleine de Limure, dont elle fait l'héroïne de son roman Carnaval, et Marcel Garros, la très jeune veuve de l'aviateur Roland Garros, mort au dernier jour de la guerre. Il y a les voyages, la Méditerranée, l'Italie. Il y a l'opium et la cocaïne, aux charmes encore magiques. Une rumeur qui emplit le journal et qui couvrirait presque ses détonations sourdes. La mort de sa mère, que suivra bientôt la mort de Raymond Radiguet. L'enfance à jamais perdue. Mireille avait à 21 ans.
Mercredi 21 mai 1919. Un mois depuis les dernières pages. Un mois passé plus dans les larmes, l'angoisse et l'insomnie que dans la félicité attribuée à l'amour. Est-ce l'amour? Un envoûtement ou simplement la terrible crainte de l'ennui d'une vie sans dessein, sans caprice, d'une vie sans émotion sentimentale. N'est-ce qu'un cramponnement désespéré à l'aventure tant cherchée ? J'arrive à ne plus savoir, peut-être même à ne plus vouloir savoir. Je me laisse entraîner, je me laisse aller à tout, sans aucun contrôle, sans aucun projet, et cela comme si je n'avais pas 20 ans, et toute ma vie à faire, et ce beau printemps à remplir de vérité et de bonheur. Non, c'est incroyable. Aveugle et volontaire, je m'en vais dans ce qui me fait le plus mal, me déçoit le plus et me fatigue le plus. Si sottement fière d'avoir une liaison et une amie, que je sacrifie tout à ce petit orgueil. J'ai laissé pour cela ma famille, tous mes amis, tous mes projets d'avenir, et je vis comme une brute, comme une ensorcelée. Et les jours passent. Je suis anesthésiée. Je ne sais rien, je ne vois rien. Et je ne veux surtout pas qu'on me délivre. Le 25 mai 1920, Villefranche. Ce temps me rend infernal. Des désirs naissent en moi et s'épuisent immédiatement dans la plus souveraine déception. Je suis plus orageuse que l'orage, plus sensuelle qu'un chat lunaire, plus méchante et brûlante que Satan. Je m'ennuie et m'amuse des mêmes choses. La volupté me tourmente et m'attriste. La cocaïne ne me soulage pas. La chair et les caresses de mon ami me rendent dédaigneuse et morale. Il fait un temps d'huile bouillante. La mer, ce lac ridicule, s'étend, irisé comme un miroir. Le ciel blanc se confond à son horizon pâle et ignore ce que j'attends. Mes mauvais désirs me reprennent. Je voudrais faire la noce, m'encanailler avec des inconnus ou paradoxer avec Madeleine. Marcel est trop simple et même trop. Je voudrais ardemment qu'elle me fasse souffrir comme je le mérite. Et je ne reconnais plus le bonheur où s'enlisent mes facultés. Je lui en veux de tout et de moi-même, et je la désire mortellement. Sa chair me donne soif, et ses baisers ouvrent en moi un abîme incendiaire, où je sens fuir mon pauvre cerveau déjà bien entamé par les drogues et l'amour sans issue qui nous torture. Elle pleure souvent de ne pouvoir me donner du plaisir, et s'applique et s'essouffle dans mes jambes que j'écarte pour mieux sentir sa bouche, et saisir au moment exaspéré de la jouissance toutes les nuances et les oscillations du baiser défendu. Mon vice, ici, ne fait que croître. Essentiellement, je m'effraie de mes exigences. Sortir de la vie, sortir de moi-même, me griser l'âme, voilà donc la rédemption tant souhaitée de ce pays élégiaque, mais plus capiteux pour les sens que Paris et son bois de Boulogne. Le climat même d'ici vous exaspère et vous oblige à la paresse. Mais comme l'inaction est sans récompense, il faut se distraire. Et plus la distraction est répétée, plus elle est douteuse. C'est un cercle on ne peut plus vicieux. Ou bien je suis inguérissable et ma place est dans les boîtes de nuit, où j'observe avec ironie et tendresse l'affreux visage cupide et dévoyé de mes sœurs prostituées. Mais je ne sais pas, je ne sais rien. Sauf que je ne travaille pas, que je mène une vie animale et que l'ennui me gagne terriblement. Les drogues me tentent de plus en plus. Je goûte avec l'opium des nuits d'amour décuplées et merveilleuses. Je goûte avec la coco d'exquise et fine solitude, où mon esprit s'englue de volupté comme un papillon ivre. Et ce soir, j'ai décidé d'aller à Nice pour boire quelques cocktails et m'évader ainsi plus facilement de mon terrible corps, où je retrouve mes anciennes promesses, toutes mes ambitions, toute ma pureté puérile. De quoi enfin mourir de honte et d'angoisse, si l'on ne s'étourdit pas à temps dans le plus facile et le plus chargé des optimismes noceurs. Je peux de moins en moins rester en moi-même où je suis guettée par mes remords comme un évadé sous la terreur. Il n'y a qu'un remède, c'est l'écriture. Une amie confidentielle qui me reçoit à toute heure et dans n'importe quel état. Samedi 28 août 1920, Villa Provençale, Saint-Raphaël. Les grands eucalyptus frissonnent comme des oiseaux appesantis dans la lumière. Leurs plumes lisses se soulèvent au vent qui doucement les froisse. Ils ressentent certainement de la volupté. Il y en a d'autres aussi qui semblent receler l'aube. Ils gardent sur leurs feuilles pâles une froideur veloutée qui trouble parce que surnaturelle et inconnue. Ils n'ont rien de nos couleurs forestières, rien de nos ombres habituelles. Ce sont des repères de songes, les derniers qui visitent les hommes, un peu avant que le soleil ne dissipe nos anges gardiens. Pour mon amour, j'ai écrit ce petit poème, pour doucement caresser par des mots qui passent ta chair lisse et ambrée dont la pensée m'obsède lorsque tu me quittes. Tes yeux clairs, couleur du ciel d'ici, aime ces arbres aux sensibles chevelures que la chaleur remue imperceptiblement. Les cigales crissent auprès d'eux, dans les aiguilles tombées des pins maritimes, sur le sable rouge des petits cirques où la mer dessine lentement, vague après vague, un jardin d'algues mystérieux. Alors, ne pouvant pas écrire davantage sur d'autres sujets que toi-même, je pose ma joue contre la page, absolument comme les écoliers qui s'endorment, et je songe à toi, à la douceur de tes bras et de tes seins et de tes jambes, aux caresses les plus cachées, aux gestes les plus rapides, les plus secrets, les plus défendus. Je songe absolument comme un écolier qui s'endormirait. Prends-moi vite dans tes bras, mon amour. Prends-moi vite afin que je ne te vole pas cette volupté qui monte avec le trouble de nos souvenirs. Les préparatifs de la fumerie. Un matelas sur le sol, quelques coussins, puis les chers ustensiles, toujours les mêmes. Plateau, pipe, lampe. J'ai effilé la mèche moi-même tout à l'heure. La lune pleine entre par la fenêtre. Elle visite d'un rayon expert l'installation. Elle en a vu bien d'autres en Chine. Ainsi, retourne-t-elle vite au jardin pour diriger le grand jeu des ombres et éclairer le balancement voluptueux des cimes, celui des pins fragiles, celui des eucalyptus lourds. Et plus loin, toute la mer éternelle qui s'avance dans les calanques avec un bruit soyeux de robes balancées. Le 10 mai 1922. Aveu. Le bonheur de l'été me vient comme un cadeau. Cette subite joie de vivre dans la chaleur. L'éclosion instantanée des feuillages, prêts dans leur gaine depuis l'hiver. Nos arbres, en une nuit, se sont couverts comme une tapisserie profonde. Et dedans, les oiseaux chantent. Les premiers papillons, tulle incertain plus que des ombelles, volent sur la pelouse haute et les lilas montent en gerbe chargée d'odeur. J'aime la vie. Elle me monte à la tête, elle m'envahit. Elle surpasse ses promesses comme une maîtresse follement amoureuse et qui ne craint plus de trop prouver son amour. J'aime la vie et elle m'aime. Je sens sur mes joues ses longues caresses et dans mon regard, le regard d'ami de sa lumière merveilleuse. La jeunesse que je possède à son maximum est certes mon premier bonheur. Peut-être n'est-il guère exceptionnel, puisque nous l'avons tous, mais je crois que ceux-là sont assez rares qui s'en aperçoivent et s'en réjouissent autant que moi. Le tort des jeunes gens est de vouloir vieillir pour mieux connaître la vie et atteindre plus d'indépendance. Mon seul regret à moi est de ne pas avoir commencé plus tôt. Je n'attends rien de meilleur et je sais que rien de meilleur ne me viendra. Ce moment-là est unique, où, solide et sûr de moi, sur mes deux jambes souples, âgée de 23 ans et libre comme un vagabond, j'ai la chance inouïe d'avoir faim pour tous les plats du monde et d'agrandir au contraire mon appétit à mesure qu'âprement je dévore l'univers. Je vais au marché tous les jours et j'en rapporte des monceaux de provisions nouvelles. J'achète à crédit sur l'œuvre future. J'achète. Tu ferais mieux de rester à lire, à écrire, de chercher à gagner ta vie, me dit-on. Insensé que vous êtes, ignorez-vous donc que chaque jour m'approche des cendres mortelles de la vieillesse, que ce temps de grâce est unique, que mon règne sera aussi court que le vôtre, que dès 30 ans peut-être j'aurai perdu ce goût et cette hardiesse que me donne seule l'insouciance de vivre, le désir de plaire, l'égoïsme du joueur, et une beauté plus passagère encore que les dons de l'âme. J'emprisonne en moi le monde, mes yeux sont neufs, mon cœur bat fort. Je ne veux ni dormir ni m'asseoir. Les nuits de lune sont trop belles. C'est boire à leur plage salée et me coucher entre leurs nuages que je veux. M'économiser en vue de quoi? Une longue vieillesse ? Hélas, toujours assez long sera le temps où, n'étant plus au premier plan de l'univers, je verrai partir, à l'assaut de ces mêmes splendeurs, des êtres plus jeunes que moi. Vivre, extraire de tout le maximum et plus encore. Ah, si vous saviez comme tout est rare, comme rien ne recommence, comme on ne rattrape rien. Demain, dites-vous ? Jamais plutôt. Ne savez-vous donc pas que cette vie-là est votre vie, votre vraie vie qui finit chaque jour ? Ah, si vous aviez comme moi la sensation perpétuelle de la fuite du temps ? Le maximum est dans l'instant qui passe. L'instant est véritable, comme la mort. Chaque jour vous dépouille. Chaque jour, comme une ombre, on diminue. Le temps, sur le mur ensoleillé, nous ronge. Bientôt, nous disparaîtrons vers la terre et cette rangée d'iris qui pointe. J'ai compris depuis quelque temps ma tâche. Elle n'est pas de donner le change et d'inventer les balivernes pour distraire les hommes d'une vie qu'ils disent ingrate. Elle est, au contraire, de révéler la splendeur et la dureté de la vie par le récit exact de ce que je sens. Celui qui dit la vérité de son âme recrée comme Dieu le monde à son image. Une âme est un miroir d'où surgit un nouveau paysage. Les poètes se révoltent contre les réputations unanimes qui m'obligent à vous croire. Cette beauté n'est pas ma beauté. Cette musique ne m'émeut pas. L'Italie n'est pas langoureuse et la montagne est une pustule de la terre. Maintenant, recommençons sur de nouvelles bases, à vivre. Les rengaines aux oreilles de l'enfant n'évoquent aucun souvenir. Elles sont vieilles, démodées et le font rire, alors que leur mère y retrouve ses premières amours. Aller au-devant, rompre, ne rien admettre, détruire et rejeter tout ce qui, même de très loin, menace une seconde l'indépendance. Voici mes lois. Ce n'est pas une politique de conciliation, c'est exactement une révolte. Je ne mangerai pas de votre pain. Je serai abracadabrante jusqu'au bout. Vendredi 13 avril 1923, l'Oasis. Cette campagne-ci ne me console pas. Je m'évanouis contre le cobalt d'une affiche. Un jardin fleuri m'envoie, entre ses grilles, cher prisonnier, son arôme. Je chancelle. Cette odeur est un piège auquel, sur ma route amère, je ne me prends pas. Horreur de ces paysages côte d'Azur. Que donnerais-je pour une Touraine, une Bretagne, n'importe quel coin de cette banlieue où je suis née, où ma nouvelle maîtresse m'emmènera bientôt ? Je porte au cœur une blessure. Je m'abrite sous mon petit parapluie, et non tellement de la pluie que de mes larmes, que je veux cacher. Où aller ? Cette phrase d'enfant me talonne. Je voudrais rentrer. Et soudain, la douleur en moi éclate et se déchaîne. Rentrer où ? Avec qui ? Ma mère est au cimetière de Billancourt. C'est là, aujourd'hui, couchée dans la boue contre sa tombe que je voudrais être. Abomination de la mort. Je suis revenue ici pour souffrir mes plus grands désastres. La mort de maman, annoncée par cette misérable poste de Villefranche, fleurit cependant comme les années passées par ses glycines. Je tourne sur place. J'enfile une route, je bute. La boue dans laquelle je me plais à enfoncer mes souliers est blonde. Je voudrais rentrer. Maman, ton visage, tes bras, ton cœur. Les larmes ruissellent sur mes joues. Je baisse davantage mon petit parapluie. Je frissonne. Je suis seule. Je veux l'être puisque la maison de la rue Raynouard est vide, puisque si j'y revenais en hâte, moi seule ouvrirais la porte et le volet. Je n'y trouverais pas, comme aux autres retours, cette douce atmosphère, ce feu tiède, le goûter préparé, ma mère souriante, ma mère unique, ma mère que j'appelle aujourd'hui en sanglotant. Je veux être seule puisque maman n'est plus. Maman, mon seul abri, ma seule confiance. Mon Dieu, donnez-moi l'énergie d'être seule. Je ne veux plus être cette charge, ni avoir cette hospitalité, ni ces spectacles avilissants qui dégradent l'amour et la jeunesse. Je veux m'en aller, oublier. Oublier ce cruel printemps où ma mère me fut prise. Debout, je suis dans la pluie. Mon mouchoir est rose. Il est bien trop petit. J'ai froid. Où aller ? Sur le chemin raboteux, glissant, malaisé, la petite espérance s'avance. Maman, maman, rentrons. Reviens du triste cimetière et moi de ce pays de cartes postales que je hais car j'y ai eu de trop grands malheurs. Revivons ensemble, soyons purs, soyons libres. Je ne suis qu'une enfant dont le romantisme se révolte devant le fumier quotidien. La nuit vient, la pluie cesse un peu. Je suis revenue par le seul chemin creux qui ressemble à un chemin de campagne. J'aurais voulu m'y coucher, m'y loger, m'y blottir. Les herbes fraîches et odorantes, à force de caresser mon front là, en auraient peut-être effacé les atroces, les ignobles images. Au moins, j'aurais été tranquille et couchée comme maman dans la terre. Au moins, je suis brisée. Je suis complètement découragée. Poésie, mon invulnérable, pourras-tu encore faire ce miracle de me sortir du bourbier qu'est la vie ?
C'était Page arrachée au journal de Mireille Havet. Texte choisi et présenté par Béatrice Leca. Troisième épisode, avec, dans le rôle de Mireille Havet, Alicienne Schmitt, Leïla Ferro. Extrait des deux volumes parus aux éditions Claire Pollan. Prise de son, montage, mixage, Serge Ristich, Olivier Leroux. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Jean Couturier.
Sur France Culture.
Demain, les matins débutent à 6h30. Soyez à l'heure, nous, on sera là.
Guillaume Erner.
Et je recevrai Jean-Jacques Hublin, l'un des plus grands spécialistes de la paléoanthropologie. Il explore les mystères de l'évolution humaine avec passion et rigueur.
Les matins de France Culture, demain à 6h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Au menu de la critique ce midi, cette expo, nous parlerons de la grande exposition que le Louvre consacre aux figures du fou, puis de la rencontre qu'organise la Fondation Giacometti entre les œuvres du sculpteur et celles du peintre et graveur Giorgio Morandi.
Marie Laborie.
Et puis je reçois l'actrice et chorégraphe Dorothée Mugnanesa pour sa mise en scène d'Inconditionnel. C'est au Théâtre des Bouffes du Nord, d'après le texte de Kate Tempest.
Les midis de culture, demain à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Une récente étude de l'INSERM passe au crible les comportements sexuels des Français et des Françaises de 18 à 89 ans.
Sonia Kronlund.
Recul de l'âge des premières fois, diversité des pratiques, puissance du numérique.
Au bout d'un moment, on parle cul et il m'envoie une photo de son pantalon, quoi. Et ça, c'est très excitant, évidemment.
Dernière nouvelle du sexe, 20 ans d'évolution des sexualités. Ce sont 13 épisodes proposés par les Pieds sur Terre pour illustrer les résultats de cette vaste enquête. À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.
En partenariat avec Libération. Vous écoutez France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Héloïse Brésilien. Ce livre m'a vraiment bouleversée et vraiment merci pour ça. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est la double dimension. D'un côté, il y a la dimension un peu scientifique et après, il y a l'aspect un peu poétique, mais à la fois futuriste et de l'ordre du rêve.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Depuis que leur truc est au point, on ne parle que de ça. T3M, une intelligence artificielle capable de spatialiser la mémoire. Dans son nouveau livre, Héloïse Brésillon imagine un dispositif puissant qui scanne le cerveau humain, identifie les capitales de la douleur, cartographie les souvenirs, les scories de sensations passées, les odeurs, les trous laissés par la violence, dans lesquels on peut tomber très fort, très mal, même des années après. Le livre avance par fragments sur le terrain